Le bio est à l'honneur ce matin à la table de France Bleu Loire-Océan. Dans les toutes prochaines minutes, on retrouvera Gilles Colliot en compagnie de Betty Marseille qui nous présentera le GAB 44, le groupement des agriculteurs bio de la Loire-Atlantique. Elle est avec Ludovic Corin, éleveur à la ferme de la Rousselière. On abordera bien évidemment à la fois l'importance du bio, mais également le circuit court, car le label bio ne veut pas dire la même chose selon d'où on vient. Mais avant tout cela, une touche d'été, une touche de soleil, le retour des beaux jours et la nuit qui vient un peu plus tard, et bien tout cela est synonyme du retour dans les jardins des barbecues et sur les tables des planchas. Alors que cuisiner à la plancha? Et bien on en parle avec l'invité de Gilles Colliot, Édouard Pommier, chef à domicile.
Bonjour Édouard.
Bonjour tout le monde.
C'est vrai que là il fait un petit peu gris ce matin, mais la tendance est au beau jour.
Ouais, mais c'est pour éviter le sort justement. On va parler de la cuisine ensoleillée et donc ça va capter le soleil, venir.
Déjà, si on n'est pas équipé, on vous allez nous conseiller, si on veut acheter une plancha, déjà choisir le matériau.
Ouais. Alors depuis des années, en fait, ça s'est vraiment démocratisé. Hein. Ça fait déjà même 5-8 ans que c'est vraiment la mode. Déjà, pourquoi on l'achète? Parce que c'est beaucoup plus pratique que de...
Ouais, ça aurait pu être même première question. Pourquoi plancha au lieu du barbecue?
Quand on en a un petit peu ras-le-bol de gérer les braises, le feu, le truc, parce que quand on prend l'apéritif entre amis, et ben quand on veut faire griller des choses, voilà, faut s'organiser, faut que le feu il soit juste à bonne température, faut qu'il y ait assez de braises pour griller tout et tout ça. Donc ça c'est un petit peu pénible quand on prend un petit peu de l'âge, quand on a une vingtaine d'années, ça se fait simplement. Donc voilà, donc c'est le côté facile en fait, c'est quand on est prêt, on va allumer en dessous. La plaque échauffe, et on va dire qu'en 5 minutes c'est chaud, et donc voilà, on peut prendre l'apéritif un quart d'heure, 2 heures. Quand on est prêt, on a juste allumé en dessous et puis c'est pratique. Et puis après il y a cette grande plaque de cuisson dessus où qui est en fait ça fonctionne comme une poêle, donc on va pouvoir faire des multitudes de choses beaucoup plus qu'au barbecue. On n'aura pas le goût, par contre. Celui qui adore une bonne côte de bœuf grillée au sarment de vigne, parce que ça donne un léger goût fumé comme ça, sur la plancha, on l'aura pas ce goût de fumée. Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et puis après, il y a le côté aussi un petit peu plus diététique, santé.
C'est plus sain parce que la flamme ne vient pas sur le
moment. Voilà, exactement. Ouais, avec toutes les graisses brûlées et tout ça. Et donc, il y a beaucoup de nutritionnistes et de médecins qui dénoncent ça, même si c'est pas parce qu'on va faire un barbecue une journée et que le feu va prendre un petit peu si on fait du poisson ou de la viande, sur nos aliments, qu'on va attraper un cancer. Mais au final, c'est quand même, il y a quand même un côté sain, alimentation saine, et puis il y a des récupérateurs de graisse, donc ça c'est cool, ça reste pas, et puis on évacue ça après.
Comment bien s'équiper? Choix du matériau, c'est important.
Ouais,
aluminium, fonte, inox et titane, je crois que c'est les quatre matériaux.
Alors titane je connais pas bien parce que ça fait pas très longtemps que c'est sorti à mon avis, donc j'ai pas de...
Bon, on oublie le titane.
Non mais après, à mon avis s'ils viennent de sortir ça,
inox, c'est...
Alors il y a fonte inox, brute,
ouais.
Donc la fonte brute, la problématique avec la fonte brute c'est que donc c'est de l'acier brut et donc ça va rouiller et donc il faut tout le temps que ça soit huilé, nettoyé, on peut pas laisser ça comme ça.
D'accord.
Et moi je suis pas forcément beaucoup pour parce que ce côté métal va donner un goût quand même, le côté métallique. Donc après ça dépend lequel budget on a. Après il y a de la fonte émaillée, donc la fonte là est recouverte d'une couche d'émail, donc c'est comme du téfal, donc c'est anti-adhésif, il y a pas de goût du tout de métal, donc c'est très bien.
Je nettoie comment là?
Le seul truc c'est qu'on peut pas utiliser de métal dessus parce que ça va rayer. C'est comme une poêle téfal, donc une fois que ça va être rayé, on va avoir la fonte en dessous, ça va accrocher et tout ça. Donc il faut utiliser du bois pour nettoyer. Bah il faut qu'elle soit chaude et puis on nettoie ça au vinaigre ou avec des glaçons de l'eau bien froide. Oui, on peut mettre pour faire un choc thermique en fait pour décoller tous les sucs. Parce qu'en fait ce qu'il faut bien penser c'est que la plancha ça chauffe assez fort et donc quand on va mettre nos aliments, que ce soit des légumes, du poisson, de la viande ou ce qu'on veut, il y a des sucs qui vont attacher sur notre plancha et donc qui vont rester collés et qui vont caraméliser et même brûler des fois. Donc voilà. Et donc quand on va vouloir le nettoyer, il faut créer un choc thermique pour que hop, ah, ça se soulève.
Ah, je savais pas.
Et ben voilà. Et donc c'est comme ça qu'on la nettoie.
Bon.
Et donc après, et vous grattez avec une pelle en bois ou quoi. On peut pas prendre de métal. Et après, il y a l'inox.
Ouais.
Donc c'est un inox. Moi, j'appelle ça de l'inox alimentaire, ou qui va servir que à faire des cuissons ou quoi. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que. Alors après. Dans les fabricants d'inox de plancha, il y a différentes gammes d'épaisseur. Donc plus vous allez prendre fin, plus ça va avoir tendance un petit peu à gondoler. Si vous êtes pas à 50 euros près, franchement, prenez un inox quand même assez épais. Mmh. Et donc comme ça, et ça va vous faire 20 ans hein, si vous en prenez soin. Vous êtes parti pour un paquet de grillades, on va dire.
D'accord. Donc, électrique ou gaz?
Moi, je suis plus gaz parce que le côté pratique fait que vous pouvez vous mettre au milieu de votre jardin et puis vous n'avez pas besoin de raccordement. Mmh. Après, si vous habitez un appartement, j'ai envie de dire une petite plancha électrique, c'est moins cher aussi. Le gaz, la plancha gaz est plus chère. Voilà. Après, ça va dépendre de ce qu'on attend de sa plancha. Bon. Donc voilà.
On a fait le choix de la plancha. Maintenant, on va cuisiner.
Ouais.
C'est vrai que c'est sympa.
Alors Gilles, que faites-vous à la plancha l'été?
Alors je sais pas, je ne suis pas encore équipé.
Vous en avez une plancha? Non,
je vais m'équiper.
Ah bon,
c'est pour ça que je réalise cette émission, c'est uniquement personnel. Je vais avoir de bons conseils. Non mais alors, je n'ai jamais fait de cuisine à la plancha, déjà les premiers conseils.
Bah, alors premier conseil...
Ce que je veux, c'est cuisiner les petits légumes, parce qu'au barbecue, les légumes, c'est vite grillé, c'est... Ouais.
Bah même, il y a plein de petites choses. Regardez des crevettes. Juste, on prend des crevettes. Vous le faites pas au barbecue parce que ça passe entre les grilles, ça tombe, machin. Enfin, voilà, c'est infernal. Donc, ou alors, faut le mettre en brochette. Mais on le fait pas.
Il y en a toujours une qui tombe.
Ouais, voilà. Même les Saint-Jacques, les langoustines et tout ça. Ça, la plancha, vous le faites parce que la crevette, vous allez la décortiquer. La langoustine.
Donc là, on va snacker les choses.
Ouais, voilà. Il y a juste besoin de. En fait, la règle pour la plancha, c'est qu'il faut. C'est pas fait pour faire des cuissons longues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut que ça soit des cuissons rapides. Donc, si vous prenez du poisson.
Les crevettes, là, par exemple, sur mes crevettes.
Ouais, les crevettes, en général, alors, soit on les achète au marché, encore vivantes, mais elles sont petites, ça va aller très vite, ou alors on va les acheter déjà cuites, les crevettes roses classiques, on va dire. Vous les décortiquez? Et puis vous les faites sur une plancha bien chaude.
Ouais.
Vous les lancez avec un petit peu d'huile dessus. Et après, il suffit juste de les arroser avec. Si vous voulez les manger comme ça, sel, poivre, on peut. Après, si vous voulez les badigeonner d'un petit peu de pistou, un petit peu de jus de citron, un petit peu de. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, par déglaçage, en fait. Le fait d'amener un liquide comme ça sur un corps chaud, ça va décoller un petit peu les sucs. Et puis ça va rajouter des saveurs en fait. D'accord. Donc c'est ça. Donc on peut imaginer avec une petite huile ou un petit jus de coquillage comme ça avec du basilic, avec quelque chose, et on lance ça sur nos coquillages. C'est super.
Et à la plancha, pourquoi ne pas cuisiner des produits bio? C'est ce qu'on vous propose tout de suite. On va vous parler du label bio, de l'agriculture bio. Alors, on en entend parler depuis quelques années maintenant. On a compris l'importance pour notre santé, notre alimentation, mais aussi pour notre planète. Mais combien d'agriculteurs bio à Nantes? Que se cachent-ils derrière les labels bio dans nos rayons? Est-ce qu'ils veulent dire la même chose selon leur provenance? On en parle ce matin avec les invités de Gilles Colliot dans La Vie en Bleu côté cuisine. D'un côté, Ludovic Orin, éleveur bio à la ferme de la Rousselière, et Betty Marsay de l'autre, qui est chargée de communication au groupement des agriculteurs bio de Loire-Atlantique.
Betty Marsay, juste un mot sur GAP 44, hein, c'est groupement agriculteurs bio, vous regroupez les agriculteurs bio de la région. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres sur le bio dans notre région?
Alors effectivement, tout d'abord, le groupement des agriculteurs bio est un syndicat agricole qui œuvre pour développer l'agriculture bio sur le territoire. Donc en Loire-Atlantique, il y a un GAB, un groupement des agriculteurs bio dans chaque département quasiment en France. Mmh. Et aujourd'hui, nous avons dépassé le seuil des 1000 fermes bio en Loire-Atlantique.
1000 fermes bio en Loire-Atlantique.
Oui, tout
ça,
à
ça
fait.
Ça vous parle tout de suite.
Oui, c'est symbolique puisque en fait, ça fait 25 ans que le GAB œuvre pour le développement de la bio et on a beaucoup œuvré pour justement qu'il y ait toujours plus de fermes qui se labellisent en bio. Donc aujourd'hui, on est assez fiers de ce chiffre et on espère, on a aussi des ambitions que ça continue à se développer fortement.
Alors, est-ce qu'on a d'autres chiffres comme ça pour assez marquants? 1000 fermes en Loire-Atlantique, c'est énorme.
Ça représente une ferme sur quatre. Donc, 25% des fermes aujourd'hui en Loire-Atlantique sont bio. Et ça représente en surface, en terre agricole. Donc, quand je parle bio, c'est bio et ferme en conversion, en cours de conversion. Et du coup, ça représente proche de 25% des surfaces agricoles en Loire-Atlantique qui sont labellisées ou en conversion bio.
Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Ludovic Aurin, à vous lancer dans le bio au tout départ?
Mes parents, qui étaient déjà installés en bio sur la ferme familiale. Ils sont convertis au bio dans les fins des années 90, 98, 99. Et donc, moi, j'ai grandi là-dedans, en fait. Juste quand j'étais tout petit, mon père traitait. Mais petit à petit, il a arrêté. Ils sont passés à l'herbe. Les vaches sont plus sorties. Ils ont mangé plus d'herbe. Ils ont désintensifié, quoi, on dit. Et du coup, moi, j'ai vu un modèle qui marchait. Le bio a fonctionné chez nous. Et donc, je me suis pas posé la question.
Alors, vous êtes sur le secteur de la Rousselière, hein, très précisément, à
oui.
Châteaubriant.
Oui, voilà.
C'est où ça. Exactement, pour préciser les choses?
Nord-ouest de Châteaubriant.
Vous faites
route de Rouget.
Vous faites de la production bio, vous faites de l'élevage de laitière, hein, c'est ça?
Voilà. Pareil, ça, c'est l'activité des parents et des grands-parents à la base. Sur la ferme de la Rousselière, c'était une race mixte, c'était des vaches méningeaux à la base, et puis du coup ça s'est passé en Montbéliarde. Et donc on fait du lait avec 50-60 vaches laitières, grosso modo, sur une surface de 100 hectares à peu près. Donc en bio, la plupart du temps, on cherche l'autonomie, on cherche à réduire les charges. Et donc c'était le choix des parents et qu'on a continué, nous, à notre installation. Parce que là, je parle de mes parents, mais effectivement, mon père est déjà à la retraite, ma mère sera à la retraite à la fin d'année, elle est toujours associée avec nous. Mais quand je dis nous maintenant, on est trois associés. Donc moi sur l'élevage, Aurélien, mon frère, sur le fournil, on produit du pain. Et Jérémy, qui est un tiers, qui est arrivé en même temps que nous sur la ferme, mais qui n'est pas issu de la famille, et donc qui est sur le fromage. Maintenant, on transforme du fromage.
Donc là, c'est de la vente directe. C'est aussi ça le bio aujourd'hui.
Oui,
circuit court.
Ouais.
En fait, on peut expliquer que nous, au GAP 44, on accompagne tous les acteurs de la filière économique et on fait en sorte que les filières longues se relocalisent. Et de développer les circuits courts et la vente directe.
Mais en fait, on a besoin de toutes les filières longues.
Alors, filière longue, c'est par exemple pour la ferme de la Rousselière, si on veut un exemple, c'est que donc ils produisent un certain nombre de litres de lait par an. Une partie du lait va être transformée sur la ferme, mais ça, c'est assez rare encore que les fermes le fassent. Par contre, une grosse partie de la production de lait, elle va directement être collectée par une laiterie. Donc, il y a un camion qui vient à la ferme, qui collecte le lait, qui va l'emmener à la laiterie pour le mettre en bouteille ou le transformer pour le vendre après dans la grande distribution.
Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question sur le bio. Aujourd'hui, on veut consommer du bio, mais il faut aussi consommer du bio local.
Oui, c'est tout à fait ce que nous, dans le groupement des agriculteurs bio, on défend, puisque les valeurs, c'est du bio, local, éthique et solidaire. Donc le juste prix pour la rémunération des producteurs et le juste prix pour les consommateurs. Donc c'est vraiment important qu'on a aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, 1000 fermes qui produisent et qui peuvent fournir à la population des produits bio, locaux. Donc il n'y a pas de paradoxe ou d'opposition entre le bio et le local.
Voilà, parce que parfois on peut acheter par exemple des kiwis, mais s'ils viennent d'Australie ou s'ils viennent de l'autre bout du monde, il y aura une taxe carbone, hein, et même si c'est du bio, c'est pas bon pour l'environnement quand même.
C'est pour ça qu'il faut être à la fois vigilant sur l'origine des produits quand on achète et aussi sur la qualité des produits. Parce que derrière le label bio, l'étiquette AB et surtout la feuille européenne, il y a un cahier des charges qui oblige de leur plein gré les producteurs en bio à respecter l'environnement par différentes pratiques et notamment sans utiliser de produits chimiques de synthèse, les fameux pesticides.
Alors Ludovic, on va carrément découvrir votre ferme. Hein. Vous êtes du côté de la Rousselière, Châteaubriant. Alors vous faites quoi comme vous faites des yaourts, fromage blanc et puis aussi de la transformation. Vous faites des fromages différents.
Oui, voilà. Ouais. Donc ouais, on a une partie crèmerie. Donc ce que vous avez dit, oui, yaourt, un petit peu de fromage blanc, du beurre. Et sinon, notre cœur de gamme et ce qu'on a envie de développer, c'est plutôt des fromages affinés, donc pâte molle, pâte pressée non cuite. Et à terme, là, on est encore sur le lancement, ça fait que 6 mois qu'on transforme. Mais à terme, on aimerait aller vers de la pâte pressée cuite. Donc le fromage le plus réputé, c'est le Comté. Et on aimerait s'approcher de ce genre de recette, parce que c'est Jérémy et moi qui sommes du coup plutôt sur la fromagerie, Jérémy principalement, et moi qui le seconde quand je peux. C'est vraiment le genre de fromage qu'on aimerait bien développer dans un pays qui n'est pas fromager.
Bah oui, c'est vrai, on pourrait peut-être retrouver de la raclette, de la tomme, du reblochon par exemple, bio de Châteaubriant.
Et ben voilà,
pourquoi là, pas
aujourd'hui ce qu'on peut retrouver donc à la ferme le mardi et le vendredi, et puis sur les marchés de Châteaubriant et aux alentours, on va pouvoir retrouver un fromage qui se rapproche de la raclette, qu'on appelle le vacherin, donc une pâte pressée non cuite. En gros, c'est des meules de 8-9 kilos qu'on affine minimum 3 mois. Et on aimerait bien allonger la date d'affinage, mais bon, bah, pour l'instant, voilà, on est encore en phase de lancement. Et sinon, vous avez parlé de reblochon, on a un fromage qui pourrait s'apparenter, on n'a pas le droit de l'appeler c'est reblochon, sûr. Et c'est pas un reblochon. On l'appelle le mignon, parce qu'il est beaucoup plus doux que le reblochon, justement, en termes
le
de
mignon.
Goût. Le mignon.
Le mignon, d'accord.
Ouais. Donc une pâte molle là qui a la même tête qu'un camembert, on va dire.
Très bien. Et tous ces produits, on les trouve donc à la ferme, mais on les trouve aussi sur les marchés.
Oui, voilà. Nous, en fait,
c'est la ferme de la Rousselière.
Le nom, c'est la ferme de la Rousselière. C'est les produits de la Rousselière. Donc, là, on va retrouver toute la gamme, parce que là, j'ai parlé de 2-3 produits, mais on en a d'autres. Mm-hmm. Notre fromager est passionné. Et du coup, il aime bien développer les fromages et tester des nouvelles recettes. Là, en ce moment, en cave, on est en train d'essayer des fromages affinés à la bière, affinés au cidre. Bref, il y aura d'autres nouveautés, mais bref, pour revenir sur où est-ce qu'on retrouve nos produits, on va les retrouver donc à la ferme en même temps que le pain, parce que bon, on fait aussi du pain depuis 4 ans. Le mardi et le vendredi, donc à partir de 16h30, donc en direct sur la ferme. Et sinon, on va donc sur les marchés. Il y a un marché le mercredi matin en ce moment. Aurélien est en train de vendre le pain et le fromage au marché. Et le samedi matin aussi à Châteaubriant, sur la place de la mairie, il y a un marché de producteurs. Et puis sinon, bah oui, on fait appel à des revendeurs. Pour les fromages, il y a 2 fromageries à Nantes qui nous en prennent maintenant, et 2 fromageries à Rennes, un magasin de producteurs à Martigny-Ferchaux qui s'appelle le Garde-Manger, des restaurateurs.
Ouais. Et on lance l'appel, hein, parce qu'il y a pas mal de restaurateurs qui nous écoutent le matin pour connaître un petit peu notre territoire et notre terroir. Voilà, on peut lancer le projet. Hein, si vous cherchez des fromages qui ressemblent par exemple au reblochon, ça peut être des idées. Bah, hop, voilà. Ferme de la Rousselière.
D'ailleurs, je me permets d'ajouter qu'il y a un site internet pour les consommateurs qui chercheraient des produits bio locaux directement issus des fermes. C'est le site Bon Plan Bio.
Bon Plan Bio.
Qui permet de trouver à partir, on fait une recherche en cherchant le produit qu'on recherche, la localisation, et donc on a une carte géolocalisée où on trouve tous les produits de la ferme, où ils sont vendus, donc sur place sur la ferme, à quels horaires, et sur quel lieu de vente, en circuit court.
Et le meilleur de la vie en bleu côté cuisine, c'est bien entendu à retrouver quand vous le souhaitez sur francebleu.fr, site de France Bleu. Vous pouvez également observer cette magnifique journée, magnifique soirée d'hier en direct de Desbords de Loire, avec l'arrivée de l'Hermione, avec toutes les parades fluviales. Tout cela est bien grâce à notre magnifique équipe numérique qui est sur le pont tout ce week-end pour vous faire vivre ce bel événement Desbords de Loire. On y sera en direct d'ailleurs à partir de 16h et jusqu'à 19h au niveau des berges derrière Stéréolux. Dans les toutes prochaines minutes, un voyage encore direction l'Asie, cette fois-ci sans bouger de chez vous grâce à la carte blanche de Cathy Kerzéro. Ça se passe juste après ça.
France Bleu. Deux femmes qui se tiennent la main. Ça n'a rien qui peut gêner la morale. Là où le doute s'installe. C'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Un amour qui est secret. Yeah.
Une femme avec une femme, c'était Mécano sur France Bleu, Loire-Océan. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Le meilleur de la vie en bleu côté cuisine, comme chaque dimanche entre 10h et 11h. Juste avant de retrouver Cathy Kerzéro pour sa carte blanche, nous on va jeter un œil sur la route ce matin, vos conditions de circulation dans une minute.
France Bleu, Loire-Océan.
La vie en bleu, c'est bleu. Simon Hins. Chaque jour sur France Bleu Loire-Océan, c'est mon assaut pour découvrir l'actualité, les besoins et le fonctionnement des associations de Nantes, de Loire-Atlantique et Vendée. Loisirs, services, sport ou culture, vous faites partie des 400 000 bénévoles. Le rendez-vous de votre assaut, c'est du lundi au vendredi, 9h50, 12h50 sur France Bleu Loire-Océan. France Bleu, radio officielle du Tour de France, vous offre la première collection officielle Panini dédiée à la Grande Boucle. Qu'il faut savoir sur l'édition 2019. Les 22 équipes, le parcours, les temps forts et d'après-midi, les plus belles villes et montagnes réunies dans un album collector. Pour gagner votre album et commencer votre collection, rendez-vous sur francebleu.fr. À Nantes, de la place Viarme à Talensac, du cours des 50 otages au parc de Procé.
France Bleu Loire-Océan, on est bien ensemble. France
Bleu. Toujours des difficultés de circulation à prévoir toute la journée à Nantes en direction du centre-ville et de l'île de Nantes puisque c'est des bords de Loire qui se terminent aujourd'hui. On y sera encore cet après-midi en direct des berges à côté du pont Anne de Bretagne. Un pont qui est toujours fermé à la circulation jusqu'à ce soir pour la traversée entre le quai de la Fosse et l'île de Nantes. Même chose pour le quai du Marquis de l'Aiguillon en direction du centre-ville. Alors si vous voulez vous rendre dans le centre ou à des bords de Loire, plusieurs solutions. Le vélo, bien évidemment, mais aussi les transports en commun avec la navette fluviale qui est gratuite toute la journée entre Gare Maritime et le pont des Chantiers. Le tram ligne 1 à la gare maritime justement, ligne C5 à Ré-Prairie-au-Duc, des difficultés de stationnement aussi à prévoir, donc on vous encourage vraiment si possible à venir avec un mode de transport doux ce matin. Et si vous avez un événement sur votre route à nous signaler, c'est Alexandre qui vous attend ce matin au 02 40 73 6000.
On fait la route ensemble avec Laser Karting de Nantes, à 2 minutes de la Beaujoire sur Nantes Est Entreprise. Le laser game et le karting à la même adresse, www.laserkarting-2-nantes.fr.
Et comme premier voyage à direction l'Asie et plus particulièrement le Japon avec Cathy Kerzéro et Gilles Colliot.
Et dans la vie en bleu, on accueille Cathy Kerzéro. Bonjour Cathy.
Bonjour Gilles.
On va voyager un petit peu et on va partir au Japon aujourd'hui.
Exactement, c'est tout nouveau, c'est tout beau, une pâtisserie franco-japonaise qui a ouvert ses portes à Nantes. C'était il y a une semaine, Saki, 23 rue de Verdun, qui remplace, vous connaissiez peut-être hein, la pâtisserie Lambert qui a fait le bonheur des gourmands pendant une trentaine d'années. Saki, eh bien on peut le dire, c'est une histoire gourmande et, alors moi j'aime beaucoup, hein, c'est une histoire d'amour avec Saki et Clément Michel.
Donc Saki a travaillé en tant de pâtissière au Japon, pas mal d'années, mais en apprenant sur le tas en fait, sans vraiment avoir de diplôme. Et elle est venue en France faire un CAP pâtissière pour avoir cette théorie de la pâtisserie française. Et c'est comme ça à Tours qu'on s'est rencontrés. Alors moi j'étais ingénieur à ce moment-là, donc on s'est rencontrés, on s'est mariés. Ensuite on est allé vivre au Japon, à Tokyo. Et ensuite on a décidé de monter un magasin ensemble. Donc pour ça, j'ai fait une reconversion en boulangerie pour avoir le complément pâtissière-boulanger. Donc on est revenu en France à Paris pour que je fasse cette formation. Ensuite on est retourné au Japon. On a essayé d'ouvrir une boutique au Japon, mais on n'a pas trouvé le cadre de vie agréable.
C'était boulot-boulot quoi, c'est ça?
Ouais, c'est boulot-boulot. Au Japon c'est un peu difficile, c'est ouvert tous les jours, toutes les nuits. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu en France à Nantes et on a trouvé cette boutique dans un quartier très sympathique où il y a plein de belles choses. Et on peut à la fois travailler et vivre.
Et élever les deux enfants.
Et élever nos enfants, voilà, dans un cadre agréable qui s'y prête.
Saki, à l'origine, pourquoi avoir passé ce CAP de pâtisserie française? Pourquoi être venu en France?
Parce qu'en fait, la première pâtisserie où j'ai travaillé au Japon, on faisait des gâteaux de chez Fauchon à Paris. J'ai vu que la recette était très différente. Bah, du coup, je me dis, si je fais la pâtisserie française, et pourquoi je ne vais pas voir en France vraiment la vraie pâtisserie française? Bah, du coup, je pensais que pour travailler vraiment en France, il faut la langue déjà et il faut le diplôme comme tous les Français. C'est pour ça que je suis venue pour passer le CAP à Tours.
Comme vous l'avez dit, vous avez ouvert cette boutique ici à Nantes avec plusieurs gammes en fait, de pâtisserie. Parce qu'il y a des choses qui sont très classiques, il y a des créations. Et puis il y a des choses qui nous emmènent plus du côté du Japon en fait.
J'aime bien faire des créations. Bah, du coup, en fait, j'ai fait des créations. Il y en a trois pour l'instant. Création spéciale. Il y en a un gâteau qui s'appelle Promenade. que j'ai gagné un prix au Japon. Sinon, j'ai un gâteau qui s'appelle Nagomi, qui est un mariage de thé vert matcha et sucre muscabado et marron.
Et puis, également des classiques, des entremets plus classiques.
Oui, alors bien sûr, des opéras, des fraisiers, un petit peu revisités à la mode japonaise tout de même, avec de la crème chantilly, des fraisiers très légers, des gâteaux au chocolat praliné, qui sont des millefeuilles, des choux, voilà.
Des macarons aussi, une grande gamme de macarons.
Oui, une grande gamme de macarons. Ça, qui a travaillé dans des grandes maisons, elle connaît bien les macarons. Et...
Ça, c'est votre petite fille qui intervient.
Oui. Elle nous aide un petit peu, là.
D'une façon générale, une pâtisserie plus légère, ça, c'est votre touche japonaise, Saki ?
Oui. Très léger et pas beaucoup de sucre. Bien sûr, toujours avec du sucre, mais pas beaucoup. Ben, parce qu'à la fin du repas, quand même, on aime bien que ce soit un peu léger. Et au Japon, on n'aime pas trop l'or. Bah du coup, en fait, j'aime bien des biscuits moelleux et mousse léger, des choses comme ça.
Et puis, sinon, une gamme de viennoiseries aussi. Oui. C'est votre partie.
Oui, tout à fait. Donc, comme je suis boulanger, j'ai fait tout ce qui est viennoiserie. Donc, alors, bien sûr, des croissants, des pains au chocolat. Mais après, on a décliné les pains au chocolat sur différentes choses, sur des pains au chocolat framboise, des pains avec du praliné, comme on a toute une chocolaterie aussi ici. On peut faire du praliné maison. Et puis, des petits pains qu'on a ramenés du Japon. Alors, des pains melons, ce qu'on appelle pain melon. Hein, donc, très moelleux à l'intérieur, avec une pâte à biscuits autour, très craquante, des pains aux haricots rouges. Donc c'est de la purée de haricots rouges sucrés qui est fourrée dans un petit pain. Des pains à la crème très populaires au Japon. Donc pareil, un petit pain fourré avec de la crème pâtissière chocolat. Et là, on est en train de mettre en place les pains de mie japonais. Donc c'est un pain de mie qui est extrêmement moelleux. Il y en a qui ont fait leur spécialité de ça à Paris. Et on l'amène un petit peu sur Nantes aussi. Voir si ça plaît à tout le monde.
Le tout, vous l'entendrez, j'étais dans le labo avec uniquement des femmes. Clément est le seul homme. Et Saki est la seule chef femme, donc chef pâtissière à Nantes. Alors j'ai goûté, hein, j'ai notamment goûté le pain melon et je confirme, hein, c'est croquant, c'est craquelé sur le dessus, c'est tout moelleux à l'intérieur. La pâtisserie Saki, donc toute nouvelle, hein, une semaine, voilà, c'est situé 23 rue de Verdun. C'est ouvert du mardi au dimanche de 7h30 à 19h30 et vous pouvez aller fureter sur le Facebook Saki Création.
Voilà, si on veut découvrir les pâtisseries japonaises.
Vous rappelez comment on dit merci en japonais ?
Non.
Aligato.
Aligato, oui, c'est vrai. Et les bons gâteaux, on les aime bien.
Allez, très belle matinée à vous dans les 25 minutes maintenant. C'est le Forum Loisirs qui ouvrira ses portes. Vous connaissez le principe. Vous nous appelez au 02 40 73 6000 et vous nous parlez des événements que vous organisez dans ces prochains jours dans nos communes de Loire-Atlantique et de Vendée, des événements festifs, caritatifs, sportifs. L'antenne de France Bleu Loire-Océan vous est grande ouverte pendant une heure à partir de 11h. Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous inscrire pour être sûr d'avoir une place tout à l'heure.